venez, venez entrer. Notre Judaïka Culture Club a ouvert ses portes, comme tous les lundis, et notre but n'a pas changé. C'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, sortez. D'ailleurs, là, on a une sorte de canicule à 10 degrés.
Sortez voilà. Les maillots de bain.
C'est ça.
Après les combinaisons de ski.
On n'en est pas encore au coup de soleil, mais voilà, tout est là pour sortir. D'ailleurs, je me demande, on va demander à Monsieur Kesterman qu'est-ce qu'il pense de notre jingle, tiens, en musique. Michel Kesterman qui vient pour nous parler d'un festival de musique ancienne. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, et donc on a passé un autre genre de musique, excusez-moi.
Oui, avec grand plaisir, hein. c'est super.
Ah d'accord.
Bien sûr. Voilà, tout pour faire un monde.
Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, c'est un peu l'histoire, en fait. On va parler de plein d'histoires. Alors, vous, c'est la musique ancienne, donc on va peut-être parler de l'histoire de la musique. Comment en arriver de votre type de musique à Beyoncé? Comment...
Ah.
Tout un programme.
Oui, vaste programme.
par quelle étape?
Ça commence par les danses de cours. Hein. Tout vient des danses de cours, Michel.
C'est sûr, voilà.
Ah bah voilà,
le chant grégorien.
Oui, c'est moi.
On a toujours
ça dansé. Groove un peu moins, ça, mais...
Ah, je ne sais pas, on a toujours dansé, je crois, non? Depuis toujours. Bon, on en parlera tout de suite. Nous avons aussi ce soir Virginie Thirion, bonsoir.
Bonsoir.
Qui vient nous parler. Alors, le titre est assez sympa, donc ça donne déjà envie d'aller voir la pièce. Donc, comme un poisson sans bicyclette.
Oui.
Et donc, apparemment, c'est une expression connue, enfin répandue.
Voilà, c'est la deuxième partie d'un slogan féministe bien connu dans les années 70 qui dit « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ».
Mon Dieu !
Là aussi, tout un programme, monsieur,
oui,
n'est-ce pas ?
Ça laisse rêveur.
Et donc, on peut parler aussi d'une pièce presque historique puisque c'est autobiographique et vous parlez, enfin, entre autres.
Oui, là, la base est tout à fait autobiographique.
Voilà,
oui.
On part de la grand-mère
de,
ou plus loin
de mon arrière-grand-mère.
Ah ben, voilà.
Et de ma grand-mère et de ma mère.
Et tout, et tout.
Voilà.
Voilà, en tout cas, quelle histoire. Vraiment,
oui, quelle histoire.
Très, très inspirante. Nous aurons aussi donc Christophe Sermet qui a eu l'audace d'adapter, il va nous dire comment, donc les trois sœurs de Tchekhov, qui va se jouer au martyr chez vous. Ce sera
au théâtre Océan Nord.
À l'Océan Nord pour les poissons sans bicyclette.
Voilà.
Nous aurons en ligne, alors là, deux grandes vedettes, on va dire comme ça. Donc, Bart Van Loo, pour son spectacle Les Téméraires. Donc, c'est pour ceux, les quelques auditeurs qui ne le connaissent pas encore, bah, après son passage, je crois quand même en 10 minutes, il peut vous convaincre qu'il faut aller le voir. Si vous trouvez encore des places. Mais bon, on va vous dire quelques petits trucs pour encore venir l'écouter. Et puis, nous aurons Éric Bouvron, qui est un auteur et metteur en scène français, comme je dis, multi-moliérisé, pour une pièce qui vient ici, donc Maya. C'est l'histoire aussi, encore de l'histoire de Maya Angelou, qui était une des camarades, on va dire, de Martin Luther King, et qui a une histoire formidable, voilà, qui est étudiée dans toutes les écoles aux États-Unis et qui n'est pas très, très connue en Belgique. Et en plus, la pièce est extraordinaire, parce qu'entre autres, avant d'être écrivain, politique, etc., elle a été chanteuse de cabaret. Et donc, il y a de la musique aussi, voilà, encore un type de musique noire du sud, ségrégationniste, qui a aussi une influence sur, enfin, et qui a pris des influences, puis qui a donné des influences. Beyoncé, elle a pêché dans tout ça. Hein.
Ah oui, non, oui, ça c'est sûr que le R&B vient des gospels et
exactement.
De la musique nord-américaine, sûrement.
Voilà, eh bien, et on va commencer. Alors, commençons en musique. Alors, Dominique,
oui,
que je n'ai pas encore représenté. Dominique Cambio,
voilà.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Le ténor de l'équipe.
Un contre-ténor. il manquait un petit bout, mais ce n'est pas grave.
Pardon,
c'est pas grave.
Contre.
Oui, je suis contre personne.
Tout
mais
contre.
Sauf les ténors. Donc, nous recevons aujourd'hui Michel Kesterman, flûtiste, chef d'orchestre, fondateur et directeur musical de l'ensemble de musique ancienne La Cetra d'Orfeo, et également fondateur d'un festival baptisé Festivita, qui en est à sa 3e édition, et qui a pour objectif de rendre la musique ancienne accessible, sans pour autant faire de compromis sur la qualité et l'excellence, mais en misant sur une programmation qui sort des sentiers battus. Et donc, cette année, le festival se déroulera du 10 au 18 février et aura comme fil conducteur Bruxelles et les Pays-Bas méridionaux. Alors, Michel Kesterman, expliquez-nous un peu le choix de cette thématique.
Alors, le choix de cette thématique, il est peut-être dû à notre collaboration avec le conservatoire, parce que le département de musique ancienne fête cette année ses 20 ans d'existence. Et comme on collabore depuis de nombreuses années avec le conservatoire, on s'est dit que cette année, idéalement, on pourrait faire quelque chose de plus important et de même carrément les inviter à faire un grand événement. Et il se fait que leur thème annuel cette année-ci, c'était Bruxelles, parce que chaque année, ils ont un thème, et entre autres, ils vont, par exemple, l'année passée, il y avait Naples, l'Italie, etc., et il y a des voyages, et cette année, le voyage, c'est à Bruxelles. Donc voilà, et ça se déroule pendant un an, les activités du conservatoire qui fête ses 20 ans d'existence, le département de musique ancienne. Donc. Et donc on a gardé ce thème finalement pour tout le festival Festivita en les invitant au concert avant-première.
C'est ce fameux concert qui aura lieu le 10 février en la cathédrale Saint-Michel-Aigudule à Bruxelles, et aussi un concert auquel prendra part les deux parrains du festival, puisque le festival a deux parrains, donc Bernard Faucroul, qu'on connaît bien, organiste et ancien directeur de La Monnaie, et également Frédéric De Rose, qui est l'ancien directeur du conservatoire. Parlez-nous un peu de ce concert qui s'annonce grandiose, vraiment.
Grandiose, complètement hors norme. En réalité, on a fait appel, enfin c'est surtout l'équipe qui gère ça au conservatoire, qui a fait appel à tous les anciens et les actuels, étudiants et professeurs, et ça va donner une quantité impressionnante d'artistes.
Plus ou moins combien, on parle de combien là ?
On a entre 150 et 200 quand même artistes sur scène.
C'est le Wagner du baroque, ça.
Voilà, et ça va faire un grand feu d'artifice, parce que non seulement c'est un grand nombre d'artistes, mais en plus, ils vont jouer des œuvres qui résonnaient dans la cathédrale il y a 300 ans. Mmh. Donc, les maîtres de chapelle de l'époque, depuis le XVIIe siècle jusqu'au fin XVIIIe siècle. Et on va également profiter de l'architecture du bâtiment pour faire sonner les instruments, les groupes instrumentaux à différents endroits de l'espace.
Des effets de spatialisation comme on faisait à l'époque pour donner immersif.
Comme on faisait à l'époque, immersif. C'est quelque chose qui est presque né à Anvers en fait, et puis qu'on retrouve après en Italie, donc grandement à Venise, à Saint-Marc. Et ici, on aura Bernard Faucroul aux grandes orgues, mais différents groupes instrumentaux vont jouer devant les colonnes, au milieu, sur les côtés, etc. Et se répondre. Et après, il va falloir retourner sa chaise, parce qu'il y aura aussi un immense orchestre et chœur de l'autre côté de la cathédrale, sous le jubé. Donc, il faudra tourner sa chaise comme à la messe. Donc, voilà. Donc, ça va être grandiose aussi bien au niveau sonore qu'au niveau visuel.
Oui, c'est une expérience unique. C'est très, très, voilà. Très peu souvent, on a l'occasion d'avoir un concert avec un tel effectif et tant d'effets sonores.
Historiquement, oui. Super intéressant.
Oui, parce qu'on va vraiment écouter la musique qui a été écrite pour ce lieu.
Pour ce lieu.
Magnifique. Voilà.
Donc, c'est immersif. En fait.
Totalement. Voilà.
Très à la mode de dire c'est immersif.
Oui, c'est vrai. Il y a des mots comme ça, peut-être qu'il faut. C'est comme aussi holistique. Il y a des choses qu'il faut peut-être éviter. Voilà. Ça devient un peu. Donc, et voilà. Donc, et le reste du festival se déroulera au Cercle Royal Gaulois, donc qui est ce très beau bâtiment historique qui se situe juste derrière le Théâtre du Parc, près du Parc Royal. Et dites-nous un peu quels seront les moments forts de la programmation, puisque ça s'annonce très varié aussi.
Voilà, on a un concert d'ouverture. Alors, c'est difficile de sortir les moments forts, parce que tous les moments sont forts.
Ils sont tous forts.
Un festival qui est, on est pris dedans du début à la fin, c'est vraiment un tourbillon où vous pouvez d'ailleurs vous restaurer, etc. Donc on aura un concert d'ouverture et d'ailleurs un speech d'ouverture avec Bernard Faucroul et Frédéric De Rose.
Donc les deux parrains.
Parrains seront questionnés par deux journalistes. Et ensuite on aura les lauréats du concours de l'année passée qui se produiront sur scène.
Mais de quel concours parlez-vous? Alors, puisque nous on n'est pas au courant.
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que ce serait le concours première?
C'est le concours première. Qui est donc un concours qu'on a lancé l'année passée et qui a eu un grand succès. On a reçu quantité de candidatures sous forme de vidéos. On leur demandait des vidéos. Et cette année, on a de nouveau reçu de nombreuses
candidatures. Il s'adressait donc à qui? À des jeunes groupes?
Des jeunes jusque 32 ou 35 ans, je ne sais plus exactement. Et on sélectionne nous-mêmes, avec un jury, on sélectionne 5 ensembles. Mmh. Et ces 5 ensembles se produisent le samedi après-midi sur un podium. Ils ont droit à 30 minutes tout compris, mais ils doivent aussi présenter. Donc on ne cherche pas celui qui joue le plus vite et le plus fort, on cherche quelqu'un qui sait faire d'abord une très bonne programmation, qui fait des recherches intéressantes, qui propose au niveau organologique des instruments adaptés, etc. Mmh. Donc il y a vraiment tout un travail là derrière, et ces 5 ensembles se produisent et on va en élire un qui va se produire dans le festival de l'année prochaine.
Voilà. Et donc cette année, il y a celui qui a gagné l'année dernière.
Voilà, qui ouvre le festival.
Et qui est-il alors, le gagnant?
C'est un duo. C'est un duo. Mm-hmm. De chant et pianoforte, assez théâtral. Voilà, donc c'est la voix de l'âme.
Très bien.
Ce sera très, très, très très intéressant. Ça allie un peu le théâtre et la musique. Et aussi le parler, la gestique.
Hein,
la gestique, voilà. Ensuite, on aura un ensemble français qui est l'ensemble correspondance que les baroqueux, les connaisseurs de baroque ne doivent plus.
Julien.
Aucun secret. Donc, ils vont jouer du Charpentier, mais comme on a demandé une touche belge, on aura aussi du Dumont.
Oui, de la même époque.
Donc, un ensemble de chœurs d'hommes.
Donc, c'est dans le style de baroque français, ça, plutôt.
Voilà, baroque français. Et on fait toujours un concert nocturne aux chandelles. Ça, c'est vraiment un concert vraiment nocturne, parce qu'il commence à 11h du soir.
Et qui se prête bien dans cette salle baroque aussi, la salle des Cariatides du Cercle Royal.
C'est l'ensemble Zéphirotorna qui va jouer des œuvres de l'époque de Philippe le Bon et des primitifs flamands. Donc, tout va tourner autour de Bruxelles. Le lendemain, on aura le concours première, donc pour les jeunes ensembles. Et dans le jury, on a entre autres les deux parrains, Frédéric de Rose et Bernard Faucroul, évidemment.
Et puis, j'ai vu qu'on va danser et manger aussi.
Ah oui, avant de danser et de manger, on aura...
dans le cadre du festival.
L'Alcetra d'Orfeo qui va présenter un spectacle autour des archiducs Albert et Isabelle, qui ont été nos souverains pendant quand même 20 ans. Et juste après ça, le bal. Le bal.
Un bal Renaissance.
Voilà, ça c'est le moment où il faut réserver vraiment, vraiment, parce qu'on ne sait pas accueillir tout le monde tellement il y a des demandes.
Et quoi, il faut sortir son vertugadin et sa fraise
ou comment ça fait ? Voilà, il faut mettre sa fraise, sa perruque. Ah, y a des gens qui viennent costumer, mais c'est super beau. Hein. Ouais. Et donc c'est animé par Lieven Barth, qui est vraiment un spécialiste. Et l'orchestre live, bien sûr, hein, on ne va pas mettre une bande son. Hein. Donc l'orchestre live, c'est des étudiants du conservatoire associés à un ensemble de renom qui s'appelle les Sonadori.
Et donc le maître à danser, donc Lieven Barth, va apprendre la chorégraphie
il apprend les pas. On va d'ailleurs publier bientôt des tutos sur internet
pour se préparer à la grande soirée.
Ça c'est le samedi à 20h30.
Le samedi quelle date?
Le 17. Le 17.
Hein. Ce qu'il faut préciser.
Et alors on a un off. Ah. Hein, voilà. On s'est dit il faut aussi
comme à Avignon.
Hein, voilà, comme Beyoncé, on va dire mais la musique ancienne d'aujourd'hui, qui pratique encore, qui joue encore du Purcell? Eh bien le duo d'accordéon Annie Pold et Andy Cutting. Et donc, j'ai demandé à Annie Paul de me faire un programme spécial Festivita. Alors, il y aura de la musique belge, de la musique ancienne. Ils vont jouer Purcell, Bach.
Et même de la chanson.
La
chanson à texte.
Mais des compositions.
Compositions de Brel, c'est ça?
De Brel aussi.
C'est pour ça que je parlais de chansons françaises.
Voilà. Donc, Bruxelles, hein, à fond.
Et un banquet, vous m'avez dit aussi.
Alors, c'est le lendemain, ça, le banquet.
Ça n'arrête pas.
Après le concert pour enfants.
Moi, je pense qu'à la nourriture, c'est pas bien.
Concert pour enfants, Alba Novella.
Oui, parce qu'effectivement, il y a une programmation un peu pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a un programme spécialement pour la jeunesse, le jeune public.
Le jeune public, et là,
un conte, c'est
un conte d'Andersen.
Un conte musical, sur les
signes sauvages.
Mais enfants, c'est quel âge?
Alors, les enfants, je pense, c'est 5 ans jusqu'à 99 ans, plus ou moins. D'accord. Les enfants de 99 ans sont... Les parents sont admis, hein, attention. Enfin, sinon, on organise un babysitter pour les parents. <C'est>... à côté. Et juste après ça, on enchaîne avec un banquet, appelé le banquet-concert, avec des tirets, enfin bon. Et c'est parce que c'est un banquet pendant lequel il y a de la musique, des textes, un comédien, un orchestre.
Donc on est vraiment plongé dans une soirée.
À l'époque de Charles Quint.
Voilà. Hein,
un repas, ça va plaire à Bart Van Loo, parce que c'est un repas à l'époque de Charles Quint.
Avec les recettes
du maître queue de Charles Quint. Retravailler pour l'occasion.
J'ai une question.
Comme si on y était.
Est-ce qu'à l'époque on avait des fourchettes et des couteaux?
Oui, on avait des fourchettes et des couteaux et on mangeait très très bien. Franchement, ça va être très très bon. N'hésitez pas. Non, mais c'est vrai. Et puis on a après le banquet, on a ce qu'on appelle première rencontre, c'est les parrains qui se mettent à disposition des jeunes. Et c'est une table ronde et on leur pose des questions, questions-réponses.
De la transmission vraiment.
Transmission, hein, de leur histoire, de leur savoir. Et puis on termine avec le concert de clôture qui est le concert de la loge où on va entendre des symphonies classiques mais de répertoire belge.
Ah oui, Valmaldereux par exemple.
Des grands
maîtres classiques dans l'époque de Mozart.
Gossec.
Mais qu'on connaît beaucoup moins.
Qu'on connaît moins.
Ouais, donc les Mozart belges.
Voilà. Donc un programme.
Donc, ça balaye une point de vue historique, une très grande période, et puis il y en a pour tous les goûts, tous les genres.
C'est le cas de le dire, le goût, oui.
Une exposition de lutherie.
Ah oui, on n'en a pas parlé, effectivement. Voilà. Il y aura une exposition de lutherie qui porte sur quel type d'instrument? Les cordes
Des cordes pincées, des cordes frottées, il y aura toutes sortes. Il y aura plusieurs luthiers, des professionnels et des étudiants.
Magnifique.
Ouais. Virginie, est-ce que, en tant que metteuse en scène et autrice, tu peux choisir d'avoir de la musique dans tes spectacles?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a de la musique, et quel genre, et qu'est-ce qui fait que tu choisis une musique ancienne, une musique moderne? Comment ça se passe?
Ben, le choix peut être conditionné par, ben, évidemment, la thématique de la pièce ou l'époque. Mais je trouve que quand on en a l'occasion de travailler avec des créateurs et des créatrices et de les avoir en live avec soi, c'est évidemment un plus dans l'émotion, dans la poésie et dans ce que l'on peut partager avec les spectateurs.
Mais de plus en plus, n'est-ce pas, Michel, il y a de la musique et on vous demande des créations musicales pour des spectacles que... Enfin, on va appeler, c'est pour ça qu'on parle, nous, ici, de spectacle vivant. Parce qu'il y a souvent des mélanges, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a un petit peu de tout.
Depuis le début de l'histoire.
Depuis la nuit des temps, c'est comme ça que l'opéra est né. Hein, oui. C'est comme ça que l'opéra est né au départ. C'était des associations, les comédies madrigalesques, comme on appelait ça. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, on a tracé des trames musicales, etc.
Et puis des musiques de scène pour les pièces de théâtre, de Shakespeare notamment. Il y a toujours eu des musiques
Molière,
de scène.
Ouais. Mm-hmm.
Disons qu'à un moment, on n'avait plus le budget pour avoir l'orchestre qui joue devant.
Oui, c'est vrai que les théâtres avaient des fosses d'orchestre.
Les moyens techniques récents, par contre, permettent plein d'innovations et plein de trouvailles sur le plateau pour faire exister la musique et rendre l'émotion unique.
C'est ça.
Peut communiquer.
Mais aussi très régulièrement, il y a un, deux ou trois instrumentistes sur scène.
Oui,
et...
tout à fait.
Et ça se présente bien. Alors, on va écouter de la musique.
Oui, écoutez, en extrait, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, c'est un extrait d'un compositeur qui était là au temps des archiducs Albert et Isabelle, justement, dont on passera.
On parle de quelle époque?
On parle autour de 1600, entre 1600 et 1620. C'est Hélas Amour de Pierre de Manchicourt.
Une lamentation amoureuse.
Voilà.
Voilà, Michel Costermans, après cette belle complainte amoureuse, dites-nous comment on peut réserver, courir pour écouter toute cette belle musique et ces beaux événements.
Alors, c'est très simple. Il y a un site où vous trouvez tout, c'est festivita.be. Un festivita, comme ça s'écrit. Festivita.
Hein. tout simplement.
Tout simplement. Et là, vous avez des boutons. Et entre autres, il y a un bouton pour aller réserver. Donc, c'est acheter vos billets et vous cliquez et vous achetez tout parce que c'est trop bien.
Oui.
Ça va être génial.
Et des formules d'abonnement, peut-être même.
Il n'y a pas de formule d'abonnement, mais des réductions si vous prenez plein de concerts.
D'accord.
Et on sera en plus très heureux, on vous remerciera et vous passerez un week-end inoubliable, deux week-ends.
Et donc, ça a lieu au Cercle Royal Gaulois, juste derrière le Théâtre du Parc.
Voilà.
Du 10 au 18 février.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu.
Merci Dominique.
Voilà, et alors juste avant, vous irez voir au théâtre donc, l'œuvre de Virginie Thirion, donc Comme un poisson sans bicyclette, au théâtre Océan Nord, donc à partir du 31 janvier jusqu'au 10 février.
Du 30 janvier.
Ah, le 30,
le
pardon.
Mardi 30, oui.
Ah bon, pardon. Ouais. Et donc, quel drôle de titre.
Oui, quel drôle de titre. C'est donc là un slogan féministe des années 70 qui dit « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ». J'ai gardé la deuxième partie parce que je trouve que c'est une énigme. Et puis après, y a, on connaît ou on ne connaît pas. Mais de toute façon, dans les deux cas, on est intrigué.
Et donc, alors, il y a 7 acteurs et actrices sur scène ?
Oui, tout à fait. Qui sont la troupe avec laquelle j'ai élaboré et collaboré depuis un certain temps déjà en recherche sur la matière plutôt hétéroclite que je leur ai apportée et que j'ai soumis à leur réflexion.
Ah, c'est ça. Donc, c'est pas une écriture collective ? Comment ?
Non. Non, non, j'ai écrit, j'ai D'accord. apporté de la matière et sur base des retours que j'ai eus de leur part, j'ai continué à affiner notamment la structure possible de cette narration singulière.
Qui se base donc sur votre propre histoire, l'histoire de votre famille,
oui.
des femmes de votre famille.
Oui.
Enfin, il n'y a que des femmes en fait.
Oui, parce que c'est ce qui me tenait à cœur de défendre et d'explorer. Et en fait, le point de départ est le suivant. De chaque côté du lit où, malheureusement, ma mère était en train de mourir, ma sœur et moi, nous nous sommes rendus compte qu'elle ne nous avait pas livré la même histoire quant à ses origines, avec deux versions extrêmement différentes et une version plutôt romantique et une version très dramatique. Et en fait, nous nous sommes rendus compte, à passer 45 ans toutes les deux, qu'elle ne nous avait jamais confrontés et que nous n'avions jamais été en mesure de partager cette chose-là. Donc, cette grande énigme, en fait, qui s'est posée comme ça dans notre vie.
Parce qu'il était trop tard pour lui demander.
Parce qu'il était trop tard. Voilà, elle n'était plus consciente quand ma sœur et moi, tard dans la nuit, échangeant des paroles et d'autres, et ben, tout à coup, on s'est rendu compte de ça. Et,
donc, enquête policière.
Il y a un petit peu quelque chose de ça. Et pour placer un peu la perspective du spectacle et me ranger un peu sous les figures tutélaires, j'ai envie de vous livrer une citation
Avec plaisir.
De Gloria Steinem qui dit... Peut-être partageons-nous des histoires comme des explorateurs partagent des cartes dans l'espoir d'accélérer nos voyages respectifs tout en sachant que celui que nous ferons sera unique. C'est vraiment la mission, moi, que je me suis donnée pour partager ce spectacle avec les spectatrices, avec toutes les femmes, avec les jeunes femmes qui, un jour, peuvent se rendre compte que dans l'histoire qu'on leur a livrée, il y a peut-être des zones d'ombre qu'il est bon d'explorer et que l'on peut explorer sans peur du noir.
Alors j'ai une question à vous poser parce que c'est dans l'air du temps de faire, et c'est très bien, des pièces entre guillemets féministes. C'est comme ça que c'est écrit en tout cas dans la... Voilà. Comment vous faites pour attirer les hommes aussi ? Parce qu'on a des hommes autour de cette table. Est-ce que quand vous voyez qu'une pièce est féministe, est-ce que vous avez envie d'y aller ?
Alors, oui. Après, ça dépend de qui est derrière et voilà, une pièce féministe. C'est même pas une fin en soi.
Voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit le fait que ce soit féministe ou pas. C'est le sujet, c'est le propos, c'est la manière dont c'est traité, je pense.
Non et Michel Costormo.
Oui. Si c'est intriguant, ça semble être passionnant, bien sûr. Oui.
Je trouve que c'est contre-productif de faire du féminisme une fin en soi, de toute manière.
Moi, je serais très heureuse qu'il y ait beaucoup d'hommes, mais je me mets à leur place. Je me dis, tiens, est-ce qu'ils ont envie Alors, j'ai été voir cette semaine une pièce qui s'appelait Rage, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi décrite comme une pièce très féministe. Et en fait, c'était hilarant. Donc, c'était toutes des petites scénettes, je ne sais pas, 7 ou 8 petites scénettes, où elles sont 4 femmes, et chaque fois, c'est une autre qui joue l'homme. Donc, elle met une moustache, et on a compris que c'est l'homme. Et elle finit, enfin, et c'est tous les travers des hommes, donc la mauvaise foi, l'homme qui, pour une fois, fait de la cuisine, et alors c'est la catastrophe, etc. Et elle finit par le tuer à chaque fois, enfin voilà, donc c'est drôle. Mais il y avait beaucoup d'hommes dans la salle, et qui en ont pris plein, voilà.
Ouais, là, c'est pas
le propos.
Le but n'est pas d'en mettre dans la tête de qui que ce soit. Je veux dire, on a deux hommes avec nous sur le plateau,
oui.
Qui ont été très. Voilà, ce sont des alliés de cette narration singulière. Et si on peut qualifier, je pense, la pièce de féministe, c'est parce que, en fait, en menant l'enquête, bien, nous avons dû un peu retraverser l'histoire des femmes et du féminisme, oui, durant notamment la deuxième moitié du XXe siècle. Donc voilà ce qui nourrit, en fait. Qui
et comment vous avez réussi à faire un peu, à alléger un petit peu le propos, je veux dire?
Mais justement, c'est pas parce que le sujet est grave que ça doit être triste. Et c'est quelque chose, moi, qui me tient toujours à cœur quand je travaille. C'est comment parler de choses graves en gardant la légèreté, en gardant le partage, l'humour, parce que si on n'a pas ça, alors c'est terrible. Et moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas cette possibilité d'échanger sur... on parle toujours des degrés, du premier, du deuxième, du troisième, du xième degré, mais ce sont des façons, en fait, de changer de point de vue et de pouvoir aussi se moquer de soi-même, de notre façon d'appréhender les choses.
C'est ça, de réagir, en fait, à ce...
Oui, tout à fait. Tout
à ce, entre guillemets, machisme.
Le tout, c'est effectivement de rester léger. Je pense que c'est là où aussi... quelque chose peut passer, s'il y a quelque chose qui doit passer, un message ou que sais-je.
Et comment on fait pour transférer donc votre histoire personnelle en une histoire universelle, en fait, puisque tout le monde va pouvoir être touché par cette histoire, j'imagine.
Eh ben, c'est parce que, en fait, si c'est sur le plateau, si je dois livrer une des clés, c'est que moi je ne suis pas sur le plateau, mais c'est comme s'il y avait une figure de l'autrice qui était démultipliée aussi sur le plateau, et que c'est une façon de aussi un vecteur d'humour et une façon de multiplier les points de vue.
Je me demandais, en musique qu'on dit classique, quelle est la part d'autobiographie, finalement, quand un compositeur compose quelque chose? Est-ce que c'est un lien avec son histoire? Est-ce qu'on étudie ça?
Ça, c'est très dépendant des compositeurs. Je pense que plus on se rapproche de la période romantique, plus c'est un lien. Hein. Dans la musique plus ancienne, la musique avait plutôt un rôle fonctionnel et bon, voilà, mais c'est pas pour ça que l'artiste ne peut pas se mettre lui-même ses émotions dans la musique, hein, ça c'est clair, parce que la musique de Bach, elle est entre guillemets fonctionnelle, c'était une musique pour des offices, pour des choses comme ça, mais c'est plein d'émotions, c'est extrêmement émouvant.
Oui. Enfin voilà, c'est amusant parce qu'actuellement on demande souvent que ce soit au cinéma ou au théâtre, voilà, qu'est-ce qu'il y a de personnel dans les œuvres. Et je me demandais en musique, en fait, si on demande ça. Alors, est-ce que dans Tchekhov, par exemple, Christophe, que vous avez choisi Tchekhov, qu'est-ce qui relie à vous, en fait, à votre histoire, quand on prend une histoire comme ça, qui se passe si loin avec des personnages, peut-être si loin de vous?
Si Tchekhov ne me parlait pas intimement, je pense que je suis sûr que je ne le montrais pas. C'est-à-dire que ça parle, c'est difficile de résumer en quelques mots, mais en gros, de la difficulté ou de la légèreté, ou les deux, d'être au monde, et de la complexité des rapports et de la fragilité des rapports entre les gens, que ce soit à l'intérieur d'une famille ou dans les rapports amoureux ou amicaux, voilà. Autant de sujets dont on parlera toujours, intemporels, et dont Tchekhov a parlé magnifiquement.
Voilà, on va en parler longuement tout à l'heure, mais... Voilà, je voulais juste... Parce qu'on ne choisit jamais une œuvre par hasard, quand même. Même quand vous choisissez ce que vous jouez, c'est jamais par hasard.
Mais il faut que ça me touche, d'abord.
Et c'est ça.
Il faut que ça me touche. Et il faut qu'après, je me dise, ça va toucher le public. C'est juste ça, c'est le moteur, pour moi, absolument.
Voilà.
Moi, c'est exactement pareil.
Exactement. Donc, il y a les deux. Et c'est pour ça que je posais des questions par rapport au public, en fait. Parce qu'une œuvre peut être... Autant un livre, j'ai l'impression qu'on est un peu plus, entre guillemets, indulgent avec un livre. On le prend, et si c'est triste, on le lit en 10 fois, mais on va au bout. Une pièce, c'est un spectacle, on sort de chez soi, il faut que...
Voilà. Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'établir tout de suite une sorte de pacte, d'établir ce qu'on appelle un code avec les spectateurs, c'est-à-dire de leur dire, voilà là on vous embarque, parce que j'ai remarqué que quand le code est clair, oui, on peut emmener les gens très très loin. On peut complexifier une narration et partager le plaisir qu'on a à la complexité de cette narration sans jamais perdre personne, parce que ça crée énormément de complicité et de malice.
Bon, en tout cas, on est bien curieux, ça donne envie, non?
Absolument, oui.
Je prends les dates.
Carrément.
Alors, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique là-dessus?
Bien, une chanson d'Enzo Enzo qui s'appelle « Quelqu'un de bien ». Et finalement, c'est peut-être ce qu'ont essayé d'être nombre de femmes du XXe siècle et certainement du XXIe.
Et ben voilà, il y a aussi Maya, dont on va parler tout à l'heure.
Voilà. Thank you.
devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé, comme tout le monde, qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre et sa fille. À l'aube d'un malaise, comme un soleil qui fait du mal.
Voilà, bonjour Bart Van Loo. Allô? Voilà, bah écoutez, on a de la messagerie, peut-être qu'il attend qu'on l'appelle. Je vais envoyer un petit message et on ne perd pas cette vue. On va juste dire deux petits mots en attendant. Alors, avec Christophe Sermet, bon, pour les trois sœurs. En attendant, on essaye si jamais. Tu refais le numéro, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, voilà. Les trois sœurs, quelle idée de reprendre ce chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que vous en avez fait, en fait? Vous l'avez adapté? Vous avez, qu'est-ce qu'on va voir sur scène?
On l'a retraduit.
D'accord.
Assez fidèlement, on va dire, mais en essayant de coller au plus près du russe, c'est-à-dire en ne le francisant pas. Ce qui est parfois la tendance dans les traductions francophones, tendance à nettoyer un peu, alors que Tchekhov, c'est une écriture assez rugueuse. Et
vous avez fait ça avec Natacha Belova, c'est ça?
Absolument.
Qu'on aime beaucoup ici, on l'a eu il y a 15 jours encore pour une autre pièce.
Bah, oui, elle est très active, qui est à la fois une russophone, elle a grandi en Russie, mais une femme de théâtre aussi, qui connaît très très bien.
Toujours le répondeur. Oui, bonsoir Bart Van Loo. Envoyez-moi un petit message quand vous êtes prêt et je vous rappelle, voilà, tout à l'heure. voilà, c'est raté pour Bart Van Loo. Désolée, donc Natacha, qui, je crois que son père avait un théâtre, elle est vraiment née dans un théâtre et elle est remplie de Tchekhov de la tête aux pieds, en fait.
C'est l'enfant de la balle, ouais. Oui, elle connaît très bien.
Il n'y a plus de téléphone. Super. Et donc, quelle est l'originalité de votre version, je vais dire, par rapport à... Voilà, c'est un des textes qui est un des plus joués, on va dire.
C'est juste Tchekhov.
C'est ça. C'est juste...
déjà beaucoup.
Oui, c'est ça. C'est juste le fait de, voilà, d'avoir été la fidélité à Tchekhov, en fait.
Non, mais voilà, après, moi, j'ai, avec les actrices avec qui je travaille depuis un moment, on a développé, c'est peut-être beaucoup dire, mais on a un langage théâtral qui cherche effectivement à être très concret, à faire le lien, en fait, avec des écritures plus anciennes et aujourd'hui, et comment ça nous parle, sans forcément se sentir obligé d'aller dans une actualisation qui rende les choses, entre guillemets, plus acceptables ou plus Netflix compatibles. Mais donc, après, on appelle ça une revisitation. Donc, on n'est pas dans la façon de jouer Tchekhov des années 70 ou 80. Donc, on essaye à faire en sorte. peut-être qu'on y arrive à ce que ça nous parle, comme s'il nous parlait en direct.
Plus actuel, c'est ça.
Voilà, et surtout aussi ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien quand on revisite des mythes ou des écritures plus anciennes, c'est qu'on voit comment on nous parle à travers le temps, quoi. Et on se rend compte que les choses, les problématiques, les relations entre les êtres, ben, restent toujours aussi compliquées. D'autant plus que dans l'écriture de Tchekhov, il y a tout un rapport à la temporalité, au fait de savoir où se trouve le bonheur. Il y a beaucoup de ces personnages sont en décalage par rapport au temps dans lequel ils vivent. Et un personnage des trois sœurs prétend que le bonheur n'est pas pour maintenant, mais pour dans 2 ou 3 000 ans. Donc c'est assez vertigineux. Et déjà en les 100 ans ou 120 et quelques années après l'écriture de la pièce, après la mort de Tchekhov, est pas sûr que qu'on soit plus proche du bonheur, quoi. Donc.
Alors, vous avez une très grande équipe sur scène aussi, hein ?
Oui, 11 actrices.
Oui. Ouais. Dont Gwendoline Gauthier.
Oui.
Qui a été l'excellente Iphigénie, qui a été le tube de l'année dernière, on peut dire ça comme ça.
Ouais, c'est un...
Je ne sais pas si vous avez vu Iphigénie de Splott. Il y a de la musique, hein. Ouais. C'est peut-être pas de la musique ancienne, c'est assez. Rock.
Ouais, une mise en scène de Georges Ligny.
Oui, exactement. Ouais. C'est un des tout grands succès. Et à Avignon, ça a explosé. C'était une des pièces dont les journaux français ont parlé le plus, qui va être repris un peu partout. Et certainement, voilà, d'autres acteurs et actrices de talent. Hein. Mais c'est celle qu'on a reçue ici. Donc, voilà. Et puis, c'est quand même un gage de.
On ne peut pas les citer tous, c'est ça ?
Ah, si, allez-y. Allez-y.
Il y a Yannick Reny, Adrien Drumel, Vanessa Compagnucci et Sarah Lefebvre, qui étaient les 5 dans une autre pièce qu'on vient de jouer au Martyr, qui s'appelle Les Borkman.
Exactement.
Et puis il y a des acteurs plus jeunes, Alan Bertin, Anastasia Ganova, Hippolyte Doucy, Léna Dalem-Ikeda et
Yannick Reny,
je crois que je l'ai déjà cité. Et il y a encore
un
acteur plus jeune qui est Guillaume Gendreau. Donc c'est ça qui est beau, non seulement d'avoir une grande distribution, mais croiser les âges.
Exactement.
De travailler avec des gens qui viennent de sortir de l'école et des acteurs plus confirmés. C'est un peu le sens d'une compagnie, quoi, de faire avancer les choses et de transmettre.
Et puis aussi de faire tourner, parce que les Borkman, je crois que ça a bien marché, non ?
Oui, tout à fait. Oui.
Vous avez tourné...
On a un peu tourné, on va aller en Suisse là prochainement. Et là, c'est plus lourd, on va dire, en termes de tournée, check-off, c'est tout de suite. Même si le dispositif scénique, on travaille toujours dans des dispositifs assez épurés, assez simples. On essaye de faire du théâtre avec... un théâtre élémentaire avec pas trop chargé et où les acteurs, les actrices, les corps, les voix sont plutôt au centre de la démarche.
Alors on n'a pas dit encore les dates, donc c'est un peu en même temps. Hein.
Oui.
Donc du 30 janvier au 10 février, c'est ça ?
C'est ça, et voilà. C'est au Théâtre des Martyrs qui vient de faire peau neuve.
Voilà, c'est ça.
De réouvrir.
Qui est une des plus belles places de Bruxelles pour moi. La place des Martyrs est magnifique. Bon, le théâtre aussi. Vous êtes dans quelle salle ? Vous êtes
dans la grande salle qui s'appelle la salle Daniel Skaez depuis que le théâtre a réouvert.
Ah voilà, c'était Henri Ronce, c'est ça ?
Non, alors il y en a une des deux salles, c'est Daniel Skaez, l'autre c'est Henri Ronce. Je ne sais plus laquelle. Voilà, en tout cas, c'est dans la grande salle et ça vaut le coup de venir découvrir le nouveau théâtre des Martyrs.
Voilà, et alors ils ont changé le restaurant, enfin le petit bar, restaurant, etc. Moi j'aime bien quand on va au théâtre faire une soirée, on va avant, après, c'est vrai, vous avez prévu un buffet, enfin non.
Un banquet Renaissance.
Un banquet Renaissance, oui. Ça, c'est... Mais sinon, il y a la petite restauration aussi sur place et c'est vraiment très très gai, moi je trouve.
Et qu'est-ce qu'il y a dans le banquet Renaissance ?
Des vraies recettes de l'époque de Charles Quint.
De l'époque de Charles Quint.
Et ça se mange, ça peut.
C'est excellent. Excellent.
J'imagine qu'elles ont été un peu revisitées pour.
Pas du tout, non. C'est
pour des questions de digestion, peut-être, non ? Il n'y a peut-être pas de la poularde et du cygne ou.
Peut-être un peu moins de Saint-Doux ?
Oui, c'est ça.
C'est moins végé, c'est pas végétarien. Hein.
Ah non, c'est pas vegan à l'époque de Charles Quint, sûrement pas, non.
Merci beaucoup, je sais que vous devez aller à un autre concert, vous nous avez parlé de... Vous allez où alors ? C'est quoi, c'est un bal ?
Je vais rejoindre un autre groupe folk dans lequel je joue, qui s'appelle Balbelute, et c'est un groupe qui anime des cours de danse folk, en fait.
Ah,
et on a un petit groupe, donc là-dedans je joue de l'accordéon et de la viole de gamme, mais il y a toutes sortes de musiciens et... c'est à Silly et voilà, c'est ouvert à tout le monde.
Bon, si on n'avait pas d'émission, on viendrait. Malheureusement,
un grand merci en tout cas.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On va écouter un peu de musique et puis on vous reprend, d'accord?
Bah oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, prenez-moi. Je dis toujours que les pièces sérieuses ont choisi des musiques un peu originales, sympas. Donc, vous avez choisi...
Pièces sérieuses, donc Tchekhov.
Voilà.
Oui, mais c'est une comédie, hein. Donc, une comédie oui. noire, mais c'est une comédie. Donc, voilà, bah, donc c'est Patrick Juvet. Parce que c'est sentimental et que c'est beau d'une certaine manière.
Voilà.
Et en fait, moi, j'ai découvert Patrick Juvet par un pianiste belge qui s'appelle Didier Audieux, qui avait l'habitude de chanter ça dans des fins de soirée, notamment au théâtre de Poche, et qui, je crois, dans son répertoire, avait plusieurs morceaux de Patrick Juvet. On a en tête un cliché un peu. Alors, c'est certes très pop, très daté, dans une époque, les années
disco,
70.
Les années
mais
over-kitched, comme on dit.
Bah oui, mais c'est pas que kitsch, justement.
Ouais, oui. D'ailleurs, c'est un très bon pianiste, je crois.
Oui, et parolier aussi, je trouve. Oui. Mais c'est sentimental, voilà.
On l'écoute.
Promène sur la vie tes yeux couleur de solitude. Et souvent je devine sur tes lèvres un goût d'inquiétude. Tu voudrais la tendresse malgré ce que tu peux en dire. Mais la peur des caresses t'empêche de sourire. Petits riens qui font des bleus au cœur, ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure, dans un mois, dans une heure. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, tous ces jeux que tu joues. Conquiste à la rancœur, les miroirs ne font pas le bonheur, ne font pas le bonheur. Tu maquilles des yeux gris d'un nuage de lassitude. Il s'imprègne à ta vie comme une odeur d'incertitude. Tu voudrais bien aimer en étant sûr de ne pas souffrir. Même les fleurs se fatiguent à force de s'ouvrir. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Tous ces airs que tu prends caché ta douceur, finiront par ternir tes couleurs, par ternir tes couleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, et ces rires que tu lances quand tu es trop ailleurs. Méfie-toi qu'ils ne retombent en pleurs. Qui font des bleus au cœur, ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure, dans un mois, dans une heure. Ne vieillis pas avant que le soleil ne meure, car même si la vie prend juste un peu de fraîcheur, que des bleus au cœur, pas que des bleus au cœur.
Et voilà, on reprend. Alors, je suis contente que vous disiez que c'est une comédie, Les Trois Sœurs, parce que oui. J'en ai parlé autour de moi, parce que j'ai déjà mes places. Et tout le monde me dit, oh, mais Tchekhov, c'est un peu... Voilà, c'est, parfois c'est long. Combien de temps dure la pièce ?
La pièce dure plus de 2 heures. C'est, oui, voilà. C'est 2h15 au moins. Enfin, peut-être 2h20. Mais comment dire ça ? Oui, bon, mais il y a beaucoup de... Tchekhov traîne derrière lui beaucoup de casseroles.
Oui.
Il a beaucoup été monté avec comme... thématique l'ennui.
C'est
alors
ça,
que je pense que c'est l'inverse.
Oui, c'est ça, la lenteur.
Oui, la longueur, alors oui. Que je pense que c'est l'inverse. C'est
ce,
des gens...
ce que lui-même disait d'ailleurs.
Absolument.
À propos de son écriture.
En se disputant avec Stanislavski, qui est le premier metteur en scène qui a monté ses textes. Et lui n'arrêtait pas de dire, ce sont des comédies, il ne faut pas alourdir le propos. Alors, comme avec tous les grands auteurs, comme avec Shakespeare, tout est possible. Effectivement, on peut le tirer vers le drame, et ça peut donner des spectacles très... intéressant, mais moi je pense que Tchekhov met sur la scène des personnages qui sont dans une logique de survie, de sauver leur peau par rapport à par rapport à l'angoisse métaphysique et au vide. Et souvent ils se trouvent effectivement dans des contextes où il ne se passe rien, dans des campagnes désertes. Ici les trois sœurs, c'est dans une ville qui a même pas de nom, une ville de garnison. Et où trois sœurs, justement, et leur frère, le père est mort un an avant, partagent leur quotidien avec les soldats, les militaires de cette garnison. Voilà. Et donc, c'est une espèce d'expérience humaine où cohabitent des êtres en quête d'amour, d'amitié, mais traversés aussi par des révulsions, des haines. Et ça donne lieu à une espèce de grand loft comme ça, d'endroits de rencontres permanentes, de rencontres et de rejets, où finalement on est plutôt dans une logique de vaudeville, quoi, où ça se passe, ça entre par une porte, ça sort par l'autre, des propos très graves ou profonds sont bousculés par la trivialité la plus banale. Et c'est ce tissu humain comme ça qui fait l'intérêt justement de Tchekhov et la richesse.
Et puis la beauté de l'écriture, quand même, aussi.
Ah oui, justement, oui, c'est je pense que c'est, vous parliez de musique avant,
oui,
c'est très musical.
Oui. C'est-à-dire voilà, c'est ça, c'est pas pour rien que, je veux dire que...
Absolument, oui. Non, c'est très rythmé, et nous, on est très attentifs à ça, au rythme, à comment ça se bouscule, comment une parole en bouscule une autre, et comment, on dit aussi que Tchekhov est bavard, des fois, alors c'est vrai que ça parle beaucoup, mais moi je trouve au contraire que c'est très concis, c'est-à-dire que les personnages vont souvent à l'essentiel, et justement l'écriture, le génie de son écriture, c'est que il réussit à faire dire au rôle, au personnage, en peu de mots, des choses à la fois profondes ou compliquées, par le biais de la poésie, voilà. Et c'est ça qui est beau, entre autres.
Voilà, et puis c'est tout le travail de la mise en scène, d'en faire une pièce.
Ça, c'est après, c'est une autre.
Un spectacle, en fait. Bah oui, c'est ça. Quand c'est plus de 2 heures aussi, c'est quand même un beau travail, en tout cas. Et donc, on répète, donc, ce sera du 30 janvier au 10 février,
ouais.
Au Théâtre des Martyrs, au nouveau Théâtre des
Martyrs.
Place des Martyrs, au centre-ville.
Au centre-ville, ouais.
Voilà, magnifique. Et puis, on va dire, et plus si infinité, j'espère que vous aurez
j'espère
l'occasion
bien.
De...
J'espère.
De, voilà.
Et on peut boire et manger aussi.
Oui, c'est ça. Donc, ils ont changé maintenant le restaurant et il y a encore plus de place. Alors, on va essayer. J'espère qu'on aura un peu plus de chance. Donc, avec Éric Bouvron, qui a donc coécrit et mis en scène un spectacle qui s'appelle Maya. Allô ?
Oui, je suis là.
Ah,
bonjour.
Super, voilà, bonjour.
bonjour.
Je suis très contente de vous avoir en ligne pour un spectacle que j'ai adoré et que je suis si contente que les Bruxellois vont pouvoir venir voir, mais un soir, malheureusement un seul soir, donc il faut vraiment se dépêcher. Ce sera le 31 janvier. Au Centre culturel d'Uccle, donc, Maya. Alors, qui est Maya ? Parce qu'elle a vraiment existé, Maya.
Alors, Bill Clinton, quand il est élu président, il a demandé à une femme afro-américaine d'écrire un poème pour la nation. Et c'est Maya Angelou qui lui a demandé. Maya Angelou était bras droit de Martin Luther King, de Malcolm X. Et elle était une femme, un symbole, un peu comme Nelson Mandela, pas seulement pour les États-Unis, mais pour tout le monde. Un peu dans le monde anglophone et même au-delà.
C'est ça.
Et Maya Angelou.
Oui.
Pardon.
Donc c'est une femme qui a eu une vie incroyable, qui donc elle est née dans le sud,
poétesse, écrivaine, voilà. Scénariste, femme de conflit, résiliente. Elle a influencé beaucoup de monde et même des gens comme Obama qui leur a toujours rendu beaucoup de respect parce qu'elle a vraiment été une voix de la nation. Et quand les États-Unis, par exemple, ils ont récemment créé une pièce de monnaie, ils ont mis une première femme sur cette pièce et c'est Maya Angelou en plus. C'est-à-dire que c'est un symbole emblématique pour les États-Unis et comme je dis, dans le monde entier. Et on était ravis de le créer avec des comédiennes franco-afro-américaines de Paris et avec du chant, avec une histoire forte sur son passé, de ce qu'elle est devenue.
Oui, parce que à un moment de sa vie, elle a été chanteuse, c'est ça?
Elle a tout fait, oui. Elle était poétesse, chanteuse. C'était une femme qui a vécu la vie complètement.
Incroyable, oui.
Il ne faut pas oublier, dans les années 30, quand elle était petite fille, les femmes afro-américaines étaient censées juste être au foyer, aider maman avec le linge ou faire le ménage. Mais pour Maya, alors ce qui est intéressant qu'on développe dans l'histoire, c'est que Maya, elle était maltraitée par son beau-père. Et quand elle a dit que c'était à cause de lui, le jour après, comme le milieu noir afro-américain ne voulait pas faire de bruit pour le reste des États-Unis, ils réglaient leurs petits problèmes entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour après, cet homme l'était trouvé mort. Et elle a dit, mais c'est à cause de moi, c'est ma parole, parce que j'ai dit un seul mot qu'un homme est mort, donc je refuse de parler. Et pendant 5 ans, elle n'a jamais parlé.
Alors qu'elle avait 8 ans, enfant.
Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Et 5 ans plus tard, elle fait connaissance de quelqu'un que je vais pas spoiler, qui change tout pour elle. Et c'est cette histoire qu'on voulait raconter. Comment on est capable de basculer, comment on peut faire une résilience, comment on peut raconter une belle histoire surtout. Voilà.
Oui, en lisant sa vie, sa véritable vie, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que donc, c'est en faisant une tournée en Europe pour Porgy & Bess, dans laquelle elle jouait, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, en Italie, en France, les Noirs et les Blancs pouvaient manger à la même table, on pouvait se parler, des choses surréalistes pour elle. Et donc, elle est revenue avec un combat encore plus fort dans le cœur.
Ah, je n'ai pas lu cette partie-là, mais c'est très juste ce que vous l'avez dit. Parce que oui, c'était en Europe qu'il n'y avait pas une séparation entre la couleur de la peau. C'était le talent qui compte. N'oublie pas que c'était les Américains qui ont amené le jazz à Paris, surtout pendant la Première Guerre mondiale et surtout dans la Deuxième. Donc, il y avait toutes ces époques tellement riches de partage de différentes cultures. Et en Europe, on était beaucoup plus ouverts de accueillir, d'avoir cette curiosité. Donc, et Maya était très inspirée par l'Europe. Déjà, Maya Angelou, c'était parce que c'était, je pense, c'est ton quatrième mari qui était grec.
C'est ça.
Donc, vous voyez, elle a fait un joli parcours de vie personnelle aussi.
Exactement. En tout cas, cette pièce est merveilleuse. On en ressort tellement heureux. Alors, on pleure un moment, je dois dire, mais on en ressort tellement heureux et fiers. Et on se dit, mais en fait, nous, on a une vie de rikiki. J'ai ici autour de la table deux auteurs, metteurs en scène. Donc l'un qui a remonté les trois sœurs de Tchekhov et l'autre qui a écrit l'histoire de toute sa famille sur les 4 générations de femmes, ça donne envie de des combattants. Exactement, on est vraiment dans l'époque des femmes. Donc c'est un spectacle vraiment merveilleux. Un de vos nombreux spectacles qui tournent. Vous avez combien de spectacles qui tournent actuellement?
Oh, écoutez, les gens me disent, mais tu fais tellement de spectacles. En réalité, c'est juste parce que tu prends le temps de créer. Je plante les graines et je laisse les années faire lentement. Parce que quand je travaille, j'aime travailler dans une manière organique. Je ne force pas, je dis, qu'est-ce que je vais monter cette année? C'est quelles histoires tu veux partager? Quelles sont les rencontres qui te font que tu as envie de faire un chemin avec? Et ces chemins durent. Des fois, ils durent. Par exemple, Cavalier, je tourne maintenant presque 10 ans et il y a encore des dates. Mes autres spectacles, c'est parce qu'il tient la longueur du temps et ils mûrissent également. Et quand je crée, c'est pareil avec cette équipe de femmes avec qui on coécrit et qui sont sur scène, avec un musicien en plus, parce qu'on voulait amener vraiment le dynamique musicale. Oui. C'était ça, c'était un travail où vous allez voir, elles jouent tout, ces femmes. Donc, c'est un hommage, pas seulement à la femme, c'est un hommage à Maya Angelou, mais c'est un hommage à la résilience quelque part.
Exactement. Donc,
comme vous dites, on pleure, mais c'est surtout on rit, on pleure, mais
On est heureux à la fin, on est fiers. Je ne sais pas pourquoi, on n'a rien fait, mais on est fiers en sortant.
Ça, c'est joli de dire ça, parce que c'est l'énergie de ces femmes qui sont sur scène, parce qu'elles portent la voix de Maya. Et si vous allez sur YouTube, par exemple, vous faites Maya Angelou, des fois où il y a des petites phrases qu'elle fait de 2 minutes, où elle parle de l'amour, de la famille, de la quotidien. Et ça te donne un peu la nourriture par jour. C'est des mots qui te donnent l'énergie et qui te donnent un peu cette force de vie aussi.
Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous faire de si beaux spectacles. Et donc, je viendrai le revoir donc mercredi 31 janvier au Centre culturel Ducle. Voilà, il sait ouvrir les portes. Donc, Marc Kawam qui vous a fait venir.
Oui, Marc est toujours fidèle et
terrible.
C'est fantastique. Et puis, il se bat pour amener des beaux spectacles. Et c'est un homme qui mène son chemin et qui aime les artistes, il aime les belles choses et ça, mais surtout c'est un ami fidèle et ça c'est important.
C'est précieux.
Important quand on est artiste. Ouais.
Voilà, merci beaucoup Éric Bouvron. Au revoir, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir
à tout le monde. Au revoir.
Voilà, vraiment si vous avez le temps, allez le voir, c'est très spectaculaire et puis au niveau mise en scène, c'est très particulier.
Ouais.
Quel que soit ses spectacles, c'est très personnel donc. Peu de décors, c'est une mise en scène très cinématographique avec très peu d'objets en fait. Il arrive à faire des choses vraiment magnifiques. Je voudrais encore vous parler de 3 spectacles, dont 2 pour lesquels nous pouvons faire gagner des places et qui valent vraiment la peine. Alors le premier spectacle, c'est Radio Judaïka qui organise donc le 1er février Inconnu à cette adresse, toujours au Centre culturel Duc. D'ailleurs, par hasard, je vais vous parler de 3 spectacles au Centre culturel Duc. Donc, Inconnu à cette adresse, je ne sais pas si vous avez lu le livre, vu le nom. C'est un échange épistolaire, ça s'est écrit avant 1939. C'est paru en 38, donc ça a été écrit en 34, je crois. Et c'est donc deux associés allemands, un juif et un pas juif. Et pendant la guerre, ils s'écrivent. Et puis, voilà, l'allemand, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est très, très, très fort. C'est vraiment la puissance d'une lettre. Comment on peut faire mal avec juste des lettres. Des épistolaires. Alors, le deuxième spectacle dont je vais vous parler, ça se joue ce mercredi et c'est Angela, c'est encore historique, et c'est Guten Tag, Madame Merkel. Donc, c'est un seul en scène, mais avec une femme qui, Anna Fournier, qui va prendre plusieurs personnages et qui va raconter l'histoire de cette femme quand même incroyable, qui est née aussi en Allemagne de l'Est, et qui est devenue quand même une des femmes les plus importantes d'Europe et on va dire du monde. Voilà, comment on en arrive là, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, qui elle a rencontré, comment elle s'est comportée. Donc, Guten Tag, Madame Merkel, on peut vous offrir des places, vous nous écrivez en message privé sur le Facebook de l'émission, donc Judaïka Culture Club, avant mercredi, et puis on fera un tirage au sort et on vous enverra ça. Et un deuxième spectacle pour lequel aussi on peut vous offrir des places, alors c'est le Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Le texte, c'est le texte classique, la mise en scène est exceptionnelle, j'ai eu l'occasion de le voir aussi à Avignon, et il y a de la musique aussi en direct, des créations musicales, et ça part en fait d'un polar radiophonique et c'est vraiment palpitant. Donc toujours Judaïka Culture Club, le Facebook, vous nous envoyez un petit message privé, on tire au sort et c'est ce samedi, le 27, voilà, le Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Merci beaucoup, on viendra vous voir, donc les 3 heures de Tchekhov et votre titre c'est
Comme un poisson sans bicyclette.
Voilà, alors, Théâtre Océan Or, et chez vous, c'est au Théâtre des Martyrs. Ah, on a encore été bavards aujourd'hui, mais on avait tellement de choses à vous dire. Merci beaucoup, au revoir, et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
Judaïka.